Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas sexy, qui fait peur, dont on ne souhaite pas en entendre parler, le VIH. Pourtant, 180 000 personnes vivent avec le VIH en France. Environ 5 000 découvertes de séropositivité sont constatées chaque année, un chiffre qui reste stable depuis les dernières 10 ans. Et donc, toutes ces personnes qui vivent avec le VIH ont besoin d'être accompagnées vis-à-vis de la sexualité. C'est un sujet empreint de tabous, de stigmatisation, de peur, d'anxiété, de perte de toucher humain, de reconnaissance, de visibilité, avec ce sentiment d'être sale, d'être rejeté, de ne pas être aimé pour qui on est. Mon invitée du jour, Megan Farja, est psychologue et sexologue en hôpital public. Elle accompagne des patients et patientes qui vivent avec le VIH et ceux et celles qui prennent la PrEP. Elle va nous expliquer tout ça parce que je vous avoue que moi aussi j'étais un petit peu perdue entre la différence entre VIH et SIDA, la PrEP, les différents médicaments. Elle va nous expliquer vraiment en détail son quotidien, les demandes des patients et des patientes, comment elle essaye de casser les stéréotypes qui sont liés justement au VIH et à la sexualité via son compte Instagram Aimons-nous Vivantes. Nous allons voir de quelle manière on peut éduquer, favoriser un contexte avec une meilleure santé sexuelle, mais surtout aussi un épanouissement de la vie intime, même pour les personnes porteuses de VIH, car oui, ce n'est pas parce qu'on a le VIH que la sexualité s'arrête. Et c'est aussi important de parler des pratiques sexuelles sécuritaires, parce que c'est important de promouvoir une sexualité épanouissante et le safe sex. Avant d'aller plus loin dans la conversation, je voulais vous parler du lancement de mon Patreon. Il y a un premier abonnement pour toutes les personnes qui souhaitent soutenir le podcast. Vous qui l'écoutez depuis le début, quelques mois ou aujourd'hui, vous pouvez le soutenir financièrement chaque mois. Et un autre Patreon pour les experts, les sexperts et sexpertes, les professionnels de la santé qui accompagnent les patientes, les clients sur des thématiques sexo, d'intimité et de relations comme les sexologues, comme les thérapeutes de couple, comme les sages-femmes, comme les doulas, comme plein d'autres professions. Ce sont des rendez-vous mensuels où on se retrouve entre professionnels pour échanger sur nos pratiques, des cas cliniques, pour poser nos questions, les thématiques et faire émerger l'intelligence collective. Et en plus, vous avez accès à une communauté privée engagée pour ne plus jamais rester seul dans sa pratique. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Allez, place à l'écoute. Mégane, bienvenue dans Camille parle sexe.
Merci Camille, merci pour l'invitation. Contente d'être là.
Et ouais, c'est particulier quand même, hein, parce qu'on a étudié la sexo ensemble et on a même vécu l'incroyable aventure d'aller au Canada au mois d'hiver. Donc, on s'en souviendra.
Hein. On s'en souviendra, ouais, ouais. On a bien avancé depuis, c'était une chouette expérience.
Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, peut effrayer beaucoup de personnes et que je trouve, que ce soit sur ton compte Instagram ou quand on en discute ensemble, toi vraiment, tu souhaites en parler, tu parles de la psychologie, mais tu parles aussi du VIH et tu souhaites surtout casser tous les stéréotypes qui sont liés au VIH. Déjà, pour toi, tu m'as dit, c'est très important d'expliquer, de définir ce qu'est le VIH. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors je vais faire ça avec mes mots à moi. Évidemment, je suis pas médecin, voilà, mais en tout cas de ce que j'en sais et ce qui est important de savoir, c'est donc le VIH, donc c'est un virus, le virus de l'immunodépression humaine, voilà, parce que vous l'avez aussi chez d'autres êtres vivants, chez les chats, chez les singes, et donc ce ne sera pas un H, ce sera autre chose. Mais voilà, donc ce virus existe chez différents êtres vivants, et notamment chez l'humain. Et donc c'est un virus qui va s'installer dans le corps, au niveau du sang, et qui va attaquer, alors au niveau du sang je ne suis pas sûre, mais en tout cas qui va venir attaquer les cellules de l'immunité, en fait. Et donc particulièrement, sans rentrer dans le détail, mais les cellules qu'on appelle CD4. Ces cellules, c'est celles qui vous protègent de certaines maladies. Et le VIH, le virus, il va venir s'installer et il va empêcher la reproduction de ces cellules. Et c'est ce qui fait qu'on développe des maladies qu'on appelle maladies opportunistes. Ça, c'est au départ, c'est juste le virus. Et moi, j'aimerais insister sur une différence qui est importante et qui est notable. C'est la différence entre le VIH et le sida.
Merci de le dire.
Ouais, parce que encore aujourd'hui, on a un amalgame qu'on entend très souvent, qui est de dire il ou elle ou j'ai le sida, et c'est totalement différent du VIH. Alors, c'est normal que on puisse encore penser que c'est la même chose, puisque quand c'est apparu à l'époque dans les années 80, c'est ce qu'on disait, puisque les gens étaient en stade sida. Ils avaient le VIH, mais ils étaient en stade sida. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est que le sida, c'est un stade d'évolution du virus. C'est un stade d'évolution de la maladie. Vous pouvez très bien avoir le VIH et pas être en stade sida.
Le stade sida, c'est sur le spectre du VIH, c'est vers la fin.
C'est, alors, vers la fin, heureusement, mais c'est une très bonne question, vers la fin. Avant, oui. Non, mais t'as raison, parce que grâce au traitement, maintenant, on peut le traiter. Le sida, c'est le stade d'immunodéficience acquise. Ça veut dire que là, vraiment, le système immunitaire, il a plein. Et justement, les petites cellules qui nous aident à aller bien, les CD4, il n'y en a plus. Ou il y en a vraiment très peu pour justement soutenir le corps et le défendre. Et donc, ça veut dire que le virus, il s'est vraiment extrêmement bien installé. C'est ce qui fait qu'on va développer certaines maladies. Mais donc, du coup, dire « je peux vivre avec le sida », c'est pas vrai. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, le système immunitaire, il est tellement abîmé, il est tellement fatigué, qu'il peut plus défendre le corps. Et donc, c'est pour ça que vous avez certaines personnes, à une certaine époque et encore aujourd'hui, sans traitement, qui décèdent. Mais qui décèdent parce que le virus s'est développé.
Parce qu'il s'est développé. Tu parles de traitement, donc maintenant, il y a un traitement qui permet d'arrêter le développement de ce virus.
Exactement. Maintenant et depuis les années fin 80, 90, 90. Donc il y a un traitement qui fonctionne extrêmement bien. Il y a plusieurs traitements en fait. Il y a différents types de traitements. Ils ont les mêmes bases, mais après ça s'adapte en fonction des personnes, de leurs besoins. Mais donc c'est un traitement qui fonctionne très bien, qu'on doit prendre tous les jours. Avant il y avait plein de pilules. Maintenant il n'y en a plus qu'une.
La PrEP ?
La PrEP, c'est différent. C'est encore autre chose. Je pourrais te dire après si tu veux. Mais donc, ce qu'on appelle les ARV, les antirétroviraux. Donc là, on rentre dans un discours médical avec des mots médicaux que moi, j'ai pas. Mais en tout cas, ce traitement-là, s'il est bien pris, en fait, on vit très bien avec le virus. Et c'est ce qui permet d'éviter le sida, donc le stade d'immunodépression acquise. Donc en fait, aujourd'hui, aujourd'hui, on peut dire on ne meurt plus du VIH. On meurt du sida s'il n'est pas traité, mais on ne meurt plus du VIH. Et aujourd'hui, si une personne arrive à l'hôpital ou chez son médecin en stade donc, en sida, avec le sida, avec le traitement, on va pouvoir l'aider à aller mieux, à retrouver sa défense immunitaire.
Ok, donc le traitement, il est quand même important pour continuer à vivre.
Il est primordial. Le traitement, il est primordial. Sans le traitement, effectivement, par contre, le virus se développe. Avec le traitement, comme tu disais, il s'endort. En fait, il est endormi.
Je vais rembobiner un peu, parce que comment on peut attraper le VIH, finalement ? Pour nous, ça nous paraît obvious, ça paraît clair, mais en fait, on est né aussi dans cette génération où on nous a fait peur aussi avec le sida. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en parle moins et que des fois, peut-être les jeunes sont moins sensibilisés. Comment on attrape le VIH ?
Il y a différentes manières, en fait, d'être infecté par le VIH. Déjà, alors voilà, celle qui est connue, c'est donc par des rapports sexuels, par pénétration. Voilà, par pénétration, donc soit vaginale, soit anale.
Et des rapports, du coup, non protégés.
Tout à fait, ouais. Tu veux bien le préciser, des rapports non protégés. En termes de statistiques, il y a de plus grands risques d'être infecté par le VIH. Par exemple, une pénétration anale non protégée. Et je précise, parce que parfois, on a cette idée qui est fausse, que c'est certains types de personnes, certains types de sexualité qui pourraient avoir le virus. Sauf qu'en fait, qu'on soit un homme, une femme, quel que soit son genre et la manière dont on se sent dans son corps, à ce niveau-là, on est tous pareils. Et donc, voilà. Mais parce que j'ai déjà eu des entretiens comme ça où c'était, y avait une idée préconçue où c'était un certain type de population qui était plus à risque.
Alors, les personnes homosexuelles.
Voilà, les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, il y a peut-être plus de risques, mais à ce niveau-là, on est tous égaux. À partir du moment où on fait un rapport sexuel non protégé, sans être sûr que la personne en face de nous n'a pas une IST, quelle qu'elle soit, de toute façon, le risque est là.
Ouais, donc, des rapports non protégés, donc anal, vaginal, du sexe oral aussi ?
La probabilité est beaucoup, beaucoup plus faible. Voilà, vous allez avoir des personnes, des associations de prévention qui vont dire oui, il y a un risque, d'autres non. Voilà, maintenant, il est toujours préférable de se protéger. À partir du moment où on ne connaît pas très bien la personne et on n'est pas sûr que ces résultats sont intacts, il est quand même toujours mieux de se protéger. Et ça, on le dit même à nos patients qui sont porteurs et porteuses du VIH, puisqu'en fait, il y a d'autres IST. Donc,
Il y a d'autres IST, il y a des herpès, il y a plein de choses qu'on peut attraper finalement. Et donc, c'est important de se protéger. Est-ce qu'il y a encore une autre croyance ? Si on s'embrasse, est-ce que là aussi, on peut attraper le VIH ?
Non, on ne peut pas attraper, on ne peut pas être infecté par le VIH, que ce soit en embrassant, en faisant un câlin, en étant dans une intimité autre qu'un rapport sexuel pénétratif, en se faisant piquer par des moustiques. Par exemple, souvent on a cette idée-là. J'ai déjà vu le fait de lécher une plaie, par exemple, il faut qu'il y ait un réel contact, en fait, entre... Enfin, voilà, ça ne veut pas dire qu'on va commencer à lécher le sang de tout le monde, peut-être pas, mais...
Moi, ce que j'avais peur adolescente, c'était d'utiliser le rasoir de quelqu'un d'autre et de me dire si cette personne s'est coupée et qu'elle avait le VIH, je risque de l'attraper aussi.
Ouais, en fait, il faut qu'il y ait un contact de sang à sang et on va dire aussi, enfin voilà, de pénétratif. On le voit chez une autre manière d'être infecté, c'est par les échanges de seringues, par exemple, chez les consommateurs et les consommatrices. de substances qui font donc des injections. Utiliser des produits dans le tatouage ou des choses comme ça, c'est très important d'avoir, quelle que soit en fait la pratique des aiguilles, du matériel qui est désinfecté, voilà, stérilisé, etc. Et vous avez aussi, par l'accouchement, par voie basse, en fait, vous avez encore, dans certains pays, des enfants qui naissent en étant porteurs et porteuses du VIH, puisque leur maman était peut-être pas bien ou pas traitée, pas suivie pour leur maladie, et donc, du coup, qui sont infectés comme ça. Et vous avez, Oui, pardon, vas-y.
Ici, par exemple, en France ou en Belgique, une personne qui est enceinte et qui est porteuse du VIH et qui suit un traitement peut accoucher par voie basse sans transmettre le VIH à son enfant ?
Oui, ouais, totalement. Déjà, il faut savoir qu'en France, en Belgique, les futures mamans, elles ont plein de prises de sang qui sont faites. Il y a énormément d'examens qui sont faits, tu sais. Et les médecins sont très attentifs à ça. Et donc, le VIH fait partie des examens qui font partie des sérologies, en fait, qui sont faites. Et donc, les médecins savent, même si la maman est enceinte et à un stade avancé de sa grossesse, si on détecte le VIH durant la grossesse, elle est tout de suite prise en charge, tout de suite accompagnée, et dans la majorité des cas, l'enfant, il naît sans être porteur. Il va y avoir quand même un suivi derrière pour s'assurer que tout va bien, un petit traitement aussi donné au nourrisson pour pouvoir s'assurer que le virus n'est pas là du tout. Mais en fait, c'est totalement possible de donner naissance à des enfants. Pour le moment, les gynécologues ne recommandent pas l'allaitement. Parce que on a, pour le moment, je crois qu'il y a des recherches qui sont faites, mais il n'y a pour le moment aucune certitude que, comme c'est de la muqueuse, comme il contacte entre muqueuses, en fait, il n'y a aucune certitude que l'enfant ne puisse pas être infecté par, par cette voie-là. Et ils n'ont pas envie non plus de prendre ce risque-là. Donc, après, c'est au choix des mamans. Et ça, après, c'est leur choix. Donc, en tout cas, ce n'est pas recommandé.
Ok, ce n'est pas recommandé. Et vis-à-vis de l'intimité, quels sont les défis spécifiques que tu vois justement en cabinet à l'hôpital auxquels les personnes qui vivent avec le VIH font face et sont confrontées ?
Le défi majeur, c'est la discrimination. C'est le manque d'information qui n'est pas encore bien compris, je pense, bien saisi par la population générale. Hein. C'est que aujourd'hui, grâce au traitement, être malade du VIH, c'est une maladie chronique. L'enjeu, en fait, pour nous, c'est de faire comprendre que aujourd'hui, grâce à la médecine, le VIH est devenu une maladie chronique et qu'avec un traitement efficace, avec un très bon suivi avec des infectiologues et avec des médecins, on vit très bien. On vit extrêmement bien, on vit comme les autres. Maintenant, ça dépend, s'il y a des comorbidités, si les personnes ont d'autres problématiques de santé. Et ça, voilà, c'est toujours au cas par cas. Mais aujourd'hui, on peut dire une personne qui vit avec le VIH, elle peut travailler, elle peut avoir une vie amoureuse, relationnelle, elle peut avoir une vie de famille, elle peut faire du sport, elle peut voyager, elle peut faire ce qu'elle souhaite.
Ok, sa vie. Et justement, dans l'intimité, dans les relations, donc une personne qui a le VIH et qui, on va dire, est plutôt dans la période de dating, veut rencontrer des gens, peut-être avoir des relations sexuelles. Comment elle fait ? Alors imaginons, c'est une personne avec le traitement. Et est-ce qu'elle doit le dire aux personnes en face d'elle ?
C'est toute la question. C'est toute la question. C'est la question que nos patients et nos patientes nous posent. Il n'y a pas de bonne réponse. J'imagine que d'un regard extérieur, ça ne doit pas être facile à entendre.
Parce qu'on peut se dire, j'ai le droit de savoir, en fait, si j'ai des rapports intimes avec une personne qui a le VIH.
C'est vrai. Et en même temps, alors évidemment, on ne peut pas nous savoir, mais si en face de vous, vous avez une personne qui prend son traitement, qui est indétectable, parce que ça, c'est un terme aussi important, quand le VIH ne se développe plus dans le corps, quand il est endormi, que la personne est indétectable. C'est-à-dire que le nombre de virus dans le corps, en fait, n'est pas détectable par les appareils de laboratoire. Donc, ça veut dire que le virus totalement endormi, il est intransmissible. C'est le fameux I égale I qu'on entend beaucoup et qui est important. Indétectable égale intransmissible. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, c'est normal d'avoir envie de savoir. Et en même temps, de l'autre côté, vous pouvez aussi avoir des personnes qui se disent « bah, je suis indétectable », c'est-à-dire que je n'ai aucun risque de transmettre un ou une partenaire potentiel. Est-ce que je dois le dire ? Propre à chacun. Voilà, c'est propre à chacun, propre à son histoire. C'est ce qu'on dit aussi aux patients et aux patientes, c'est propre à chacun. Voilà, parfois, ça peut être aussi de voir comment est la personne en face de soi, de voir quel est son discours. Par exemple, parfois, rien que de proposer de porter un préservatif avant un rapport sexuel, par exemple, de voir comment la personne réagit.
Oui, c'est pas parce qu'on est indétectable qu'il ne faut pas ne pas utiliser de protection, de toute façon.
Ah oui. Bah, et comme on disait tout à l'heure, effectivement, il y a d'autres infections sexuellement transmissibles pour lesquelles il y a des traitements et on peut s'en défaire. Mais pour autant, on n'est quand même pas tous protégés de tout.
C'est ça. Donc, libre à chacun, effectivement, de partager ça ou non. Mais qu'en tout cas, on va dire de base, de se dire bah, on a des rapports intimes protégés. Sauf si, évidemment, on a fait des prises de sang pour vérifier, justement, les IST, le VIH, etc.
Mais c'est vrai que c'est une question complexe, parce qu'elle est, c'est très subjectif, c'est vraiment propre à chacun.
Et il y a une question qui revient souvent aussi, du coup, tu vas pouvoir nous donner une réponse. Là, dans les couples, où il y a une personne qui a le VIH, qui a le traitement, et avec son ou sa partenaire, est-ce qu'ils doivent utiliser, du coup, des moyens de protection ?
Non. Si, encore une fois, si la personne qui est séropositive au VIH est traitée et est indétectable, il n'y a pas besoin de protection. Que ce soit une protection par préservatif, interne ou externe, hein, ou que ce soit la PrEP. Donc, parce que tu en parlais tout à l'heure, c'est un très bon moyen de revenir dessus. La PrEP, donc, c'est prophylaxie pré-exposition. Donc, en fait, c'est un dérivé, si tu veux, des ARV, donc du traitement qu'on donne aux personnes qui vivent avec le VIH, pour endormir le VIH. C'est moins dosé, et en fait, c'est un traitement qui permet de prévenir et d'empêcher, justement, le virus de s'installer dans le corps. Ça va un peu renforcer l'immunité à fond, comme un petit bouclier, et le virus ne va pas pouvoir s'installer. Si, du coup, l'immunité est ultra protégée, en fait, il est là, et après, il meurt. En fait, comme il ne peut pas s'installer, eh ben en fait, il est détruit. Okay. Et ça, en fait, on peut le donner. Enfin, donc, il faut aller voir son médecin, un médecin qui est habilité pour pouvoir prescrire la PrEP. Dans les centres de référence, vous avez donc centre de référence VIH autour de la sexualité, des questions comme ça, c'est possible. Et ce traitement-là fonctionne extrêmement bien, vraiment. Quand il ne fonctionne pas bien, et qu'il y a des personnes qui se retrouvent infectées, c'est dû à une mauvaise prise du traitement. Un oubli ou une mauvaise prise, parce qu'effectivement, par contre, il faut être quand même un peu rigoureux, parce que c'est un traitement qu'il faut prendre 2 heures ou 24 heures avant le rapport sexuel non protégé. Et après, il faut reprendre une prise à la même heure, mais 24 heures plus tard, et encore une 24 heures plus tard, s'il n'y a pas eu de rapport sexuel. Après, on commence par 2 pilules, puis une.
Et dans quelle situation les gens seraient amenés à utiliser la PrEP ?
Là, comme ça, ce qui me vient comme situation, ça va être donc des rapports sexuels à risque, donc c'est-à-dire avec un partenaire différent.
C'est un peu comme la pilule du lendemain du VIH, quoi.
Non.
Non ?
La pilule du lendemain du VIH, ça va être la nonopep, pardon. La nonopep, et donc ça, c'est le traitement qu'on donne après une prise de risque, qui n'a rien à voir ni avec la PrEP ni les ARV. C'est encore un dérivé des composants des antirétroviraux, mais là, par contre, on la donne après, où là, le risque, c'est que le virus soit présent.
Tu fais bien de le mentionner.
Ouais, tout à fait. Et donc, ça va jusqu'à 72 heures après le rapport sexuel à risque.
Ok, donc la PrEP, c'est pas ça. La PrEP, c'est quand on a du coup des rapports sexuels non protégés.
Oui.
On peut la prendre.
Voilà, c'est ça. On sait qu'on va avoir un rapport sexuel non protégé.
Et pas après, voilà, merci. Je me suis embrouillée en amont.
Non, mais parce que, mais t'as raison, parce qu'on l'apprend quand même après le rapport. Juste pour s'assurer que la protection qui était déjà installée soit encore là.
Yes.
Et donc, en fait, ta question est super pertinente parce qu'effectivement, si on se dit juste je le prends une fin, je prends les deux premiers comprimés et je suis protégée, bah là, ça fonctionne pas parce que le virus, il est peut-être dans le corps et et s'il est encore là, s'il n'y a pas derrière quelque chose qui vient de dire non, tu ne peux pas t'installer, bah il risque de s'installer s'il est présent. Donc, en fait, tu as raison. On ne l'utilise pas de la même manière, mais effectivement, tu as cette idée-là de on l'utilise aussi après.
Ok, super intéressant. Et tu vois, hein, même pour nous, en tant que professionnels de la santé, je ne pense pas que je sois la seule à des fois un peu tout mélanger et confondre, et surtout quand je suis vraiment pas confrontée aux personnes atteintes de VIH. Toi, tu l'es au quotidien, dans ton boulot, au cabinet, à l'hôpital. Quelles sont les demandes, justement, des patients et patientes atteintes de VIH quand elles viennent te voir ? Toi, en tant que sexologue et aussi en tant que psy, mais là, c'est ta casquette de sexologue qui m'intéresse.
Il y a différentes demandes. Il y a quand même une grande dimension psychologique, voilà, par rapport au choc de l'annonce, évidemment. Et effectivement, de cette question de est-ce qu'une sexualité est possible après, après l'annonce et avec le VIH. Et c'est de pouvoir rassurer en disant oui, c'est possible. C'est possible. En fait, on insiste vraiment, on réexplique ce que j'ai dit en fait sur I égale I, le fait que le traitement nous rend indétectable et que donc du coup, on va pouvoir grâce à ça être protégé soi-même déjà parce que le traitement il protège les autres mais il nous protège nous d'abord. C'est déjà le meilleur moyen de protéger les autres, c'est de se protéger soi-même et d'être bien avec soi-même. Déjà de travailler sur ça. Les rassurer, mais encore une fois, je crois que va y avoir un travail sexologique parce que peut y avoir des blocages, effectivement, au niveau de la sexualité. Mais comme tu, en fait, c'est une double casquette. J'ai du mal à me défaire même quand on va sur de la sexologie. J'ai du mal à me défaire de ma casquette de psy parce qu'en fait, c'est des blocages de ce qu'on peut entendre, c'est je suis sale. Je suis mauvais ou mauvaise, mon sang est contaminé.
C'est l'image de soi, l'estime de soi qui est complètement atteinte finalement.
Totalement. Pas toujours, parce que tu peux avoir des personnes qui ont bien saisi et qui vivent avec, et t'en as d'autres pour qui c'est plus compliqué. Et donc le travail, il va être là. Il va être là de pouvoir travailler sur comment on perçoit son corps, comment on peut percevoir ses parties génitales aussi. Et aussi, ça va dépendre aussi en fonction de comment on a été infecté aussi, évidemment.
C'est-à-dire ?
Mais je pense que c'est encore différent si ça a été si par exemple c'est par via la sexualité, si ça a été consenti ou pas, le rapport sexuel. Si on fait le rapprochement, parce que parfois c'est pas forcément évident de dire je sais que ça a été avec tel partenaire. Pour d'autres, c'est clair. Mais on a aussi beaucoup de patients et de patientes qui ont été infectés après un rapport sexuel, mais qui n'étaient pas consentis.
Qui n'étaient pas consentis, ou dans le cadre d'une relation en laquelle on faisait confiance, et il y a eu de la tromperie avec des rapports non protégés de l'autre côté. Donc il y a des fois, c'est OK, de soi-même, on prend le risque. Et d'autres fois, le risque nous est imposé.
Oui. Et alors, ce qui est important aussi de dire, parce que effectivement, on va avoir des patients et des patientes qui vont être infectés par un partenaire ou une partenaire qui le savait et qui soit ne prenait pas bien ses traitements ou ne s'est pas protégé par des préservatifs. Mais c'est pas la majorité des cas, en fait. Et ça, c'est important de le savoir. Dans la majorité des cas, les personnes qui sont infectées le sont par des personnes qui s'ignorent.
Qui ne savent pas qu'ils ont le VIH.
Ils sont porteurs ou porteuses. D'où ce qu'on rappelait, l'importance de porter une protection, parce que vous avez des personnes qui peuvent être persuadées qu'elles ne sont pas séropositives au VIH et qui le sont. Et qui le découvre souvent par l'autre, en fait, finalement.
Et oui. Et Et comment on peut justement éduquer vis-à-vis de ça, et là tu l'as quand même déjà un petit peu dit, mais éduquer, sensibiliser les individus à justement des pratiques sexuelles qui soient sécuritaires, mais tout en disant aussi que c'est possible de vivre une sexualité épanouissante, que ça peut être plaisant. Les deux, tu vois, souvent j'ai l'impression que si on utilise des préservatifs, en fait ça nous coupe dans notre élan. Ou si c'est du sexe oral et qu'on met des préservatifs, en fait c'est pas la même chose, donc on fait fi de ça un petit peu.
Mais je pense que c'est pouvoir déjà se défaire de ces idées-là. En fait, on peut très bien avoir des rapports sexuels extrêmement agréables, enfin vraiment extrêmement plaisants avec des préservatifs, que ça va pas forcément couper. En fait, ça peut en faire un jeu, en fait. On peut en faire quelque chose d'agréable. Ça veut pas dire qu'on va sortir un préservatif, que tout s'arrête. Ça peut être de proposer au partenaire ou à la partenaire de poser le préservatif, de poser ensemble. Il n'y a rien qui s'arrête. Ça s'arrête si on se dit que ça va s'arrêter. Mais je pense que tu vois aussi, une excitation, elle peut ne pas s'arrêter d'un coup. Il y a une dimension psychologique, il y a une dimension de croyance. En fait.
Totalement. Et je pense que il n'y a pas encore assez d'imaginaire collectif, justement, en voyant des rapports sexuels plaisants qui se passent avec la mise en place de préservatifs. On peut voir de temps en temps qu'il y a des préservatifs, que ce soit des fois dans les films ou les films porno, mais on voit jamais ce moment où très rarement, quand c'est mis pour pouvoir vraiment intégrer ce processus et se dire, mais en fait, il n'y a pas une coupure, quoi. Hop, comme s'il y a écran noir, hop, le préservatif est mis, et qu'est-ce qui se passe, en fait, pendant ce temps ?
Ouais, tout à fait. Ou alors, simplement, de faire des, comment dire, des examens, enfin, de faire des tests, et là, on est sûr et on y va.
Encore faut-il être dans une relation de confiance, exclusif, ou alors non exclusif, mais alors tout le monde est au courant et tout le monde fait des tests aussi, donc effectivement ça demande une certaine rigueur.
Oui, une petite organisation, mais ça n'empêche pas forcément le plaisir. Ça n'empêche pas forcément le plaisir.
Est-ce que tu as une histoire récente ou pas d'un ou d'une de tes patientes que tu as reçue et qui t'a touchée ? Alors bien sûr, en gardant le secret médical, sans donner les prénoms, etc. Mais une histoire qui t'a touchée peut-être plus qu'une autre.
C'est pas facile, parce que toutes les histoires de mes patients me touchent, parce qu'elles sont tellement diverses dans ma pratique. Je vois une personne, parce que je travaille en hôpital, je travaille dans un hôpital public, dans un quartier où il y a de tout. Tout le monde vit dans ce quartier, tout le monde y vient. Et donc, je vais pouvoir voir un Belge avec une situation sociale aisée ou une personne qui va venir, par exemple, du Rwanda avec une situation sociale peut-être un peu moins aisée, ou l'inverse, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est pour donner un peu l'idée du spectre. Et donc, je vais avoir des personnes qui ont un parcours d'immigration, qui sont en cours de demande pour l'asile, et d'autres pas. Voilà, et donc des personnes trans ou non. Voilà, donc là, comme ça, c'est pas évident.
Ou sans même dire qui t'a le plus touché, mais peut-être là, récemment, du coup.
Là, récemment, pour donner le contexte déjà, je vois, c'est une patiente, et je la vois, je fais un accompagnement en EMDR avec elle. Donc, dans le traitement de... C'est un outil qu'on utilise pour traiter les traumatismes. On en a beaucoup parlé ensemble. Et en fait, cette patiente, elle vient me voir parce qu'elle a des douleurs dans le corps. Elle a des douleurs partout dans le corps. Et on parle, elle me dit qu'elle fait plein d'examens, qu'on trouve rien, enfin que les médecins ne trouvent rien. Alors voilà, moi je me dis, il y a peut-être une dimension psychologique. Ah ça, on sait, parfois qu'on a, pas toujours, mais on a certaines douleurs qui peuvent être provoquées par des traumatismes, par du stress, enfin différentes dimensions. Et donc on discute, on travaille un petit peu, et moi je pensais que c'était... Parce qu'en fait, ces douleurs, elles ont commencé à apparaître suite à l'annonce de la maladie, du VIH, et donc moi je travaille un peu avec elle sur ça, et donc je me dis ça doit être à cette dimension-là. Et en fait... Je vois que ça n'évolue pas, et en fait on rediscute un petit peu sur son histoire, et en fait je me rends compte que dans son histoire il y a la dimension du rejet qui a été importante. Son partenaire, en fait, quand il a su qu'elle était porteuse du VIH, il l'a quittée. Mmh. Il l'acceptait pas, et donc il l'a quittée. Et en fait, c'est maintenant un nouvel aspect en fait sur lequel on va travailler avec cet outil-là, le MDR. C'est sur le rejet et cette peur en fait d'être rejeté par l'autre. Et donc, alors ça ne veut pas dire qu'en travaillant sur ça, la peur elle va disparaître totalement, parce qu'il y a une dimension sociale sur laquelle pour le moment, qu'on n'aura jamais, sur laquelle on peut pas avoir forcément un contrôle immense, mais par la prévention, on essaye quand même de travailler dessus, mais en tout cas de pouvoir travailler ensemble sur le fait que elle n'est pas moins bien qu'une autre personne, qu'elle mérite d'être aimée, que ce soit par des amis ou sa famille ou un partenaire. Mais voilà, c'est pouvoir travailler sur ça, c'est pouvoir en fait s'accepter soi.
Qu'elle gagne confiance en elle, quoi, vis-à-vis de ça.
Ouais, je dis pas que ça réglera tout, mais en tout cas, je crois que c'est un événement qui l'a profondément marqué et ça pourra peut-être l'aider un petit peu.
Bah oui, en espérant. Et c'est pas évident, hein, et ça rejoint ce que tu disais, cette stigmatisation, la peur que ça peut engendrer chez les gens en face, chez les partenaires, dans la famille, l'entourage. Et donc, ça a un poids quand même, un poids que souvent les personnes, j'ai l'impression, gardent pour elles aussi, sont seules à porter ça. Et donc, dans l'accompagnement, c'est aussi de pouvoir déposer, en tant que psychologue, de pouvoir que les personnes puissent déposer ça, avoir une oreille attentive, pouvoir savoir comment faire face, avoir des réponses à leurs questions. Et donc, ton métier est extrêmement important.
Oui. nos métiers, ils sont importants parce que déjà, on offre une dimension de l'écoute qui, comme tu dis, parfois n'est pas toujours évidente. Et surtout dans cette dimension de la sexualité, en fait. Parce que qu'est-ce qui fait que le VIH est encore tellement... que la maladie du VIH est tellement stigmatisée, c'est parce qu'on parle de sexualité. Mm-hmm. On parle de sexualité, on parle de l'intime.
De l'intime.
Dans la dimension de l'intime, tu vois très bien, il y a tout ce côté de l'imaginaire des gens, de ce qu'on y met dedans. Et donc, forcément, par exemple, le VIH, on a été infecté par le VIH parce qu'on a été extrêmement actif dans sa sexualité avec plein de partenaires. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mal, attention, il n'y a aucun souci sur ça. Mais donc, que c'est associé à quelque chose d'impur, parce que c'est souvent ce qu'on peut entendre aussi chez les patients et les patients.
Je suis sale, comme tu disais. Hein.
Voilà. Alors qu'en fait, déjà, ça n'a rien à voir. Quelle que soit la sexualité qu'on a, avec de multiples patients ou pas, c'est...
De multiples partenaires.
Patients, partenaires, pardon. Des multiples partenaires, excuse-moi. Parce que j'ai beaucoup de patients. Lapsus. C'est Freud qui serait content. De multiples partenaires. Oui, non, ça, c'est pas déontologique. C'est pas... Excuse-moi, je suis tellement concentrée que je ne sais pas.
De multiples partenaires, oui.
Ouais, des multiples partenaires. Et voilà, et donc en fait, comme on disait, en fait, on va avoir des patients et des patientes qui ont été, qui ont subi des choses extrêmement difficiles. Sans parler même des patients qui sont infectés parce qu'ils ont été torturés dans certains pays, par exemple. Le parcours de vie des gens, comment dire, c'est plus compliqué que ça. Que cette idée en fait préconçue de c'est la sexualité et c'est une personne qu'on a trop profité, c'est pas vrai, et quand bien même on n'a pas à juger ça. Et donc c'est compliqué du coup pour ces patients là de pouvoir composer avec ça. Et c'est souvent la première chose qu'on nous dit, c'est on va me considérer, alors pardon pour les propos, mais je vais le dire le mot, hein, comme une salope, quel que soit le sexe, voilà. Alors que, encore une fois, ça n'a rien à voir et on ne peut pas supposer, en fait, la sexualité des gens.
D'où l'importance de casser encore ces fausses croyances et ces stéréotypes. Mégane, s'il y a une chose, un message que tu veux transmettre justement vis-à-vis de ce sujet, VIH et sexualité, un mot avec lequel, un mot, une phrase avec laquelle les personnes peuvent repartir. une attention.
Une attention, je sais pas si c'est forcément lié au VIH, mais en tout cas de prendre soin de soi, quelle que soit la manière, en fait, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. Et je pense que c'est comme ça déjà, en fait, qu'on sera dans la bienveillance, qu'on accepte l'autre, en fait, quelle que soit sa situation, sa santé, et de s'informer. En fait, il faut s'informer. Il faut s'informer parce que c'est par le savoir qu'on a plus de pouvoir et donc qu'on se sent mieux les uns les autres. Et informer les médecins.
S'informer et informer les médecins, c'est un grand rôle aussi. Et pour ça.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Former aussi, les personnes peuvent entre autres aller sur ton compte Instagram Aimons-nous Vivantes. Merci beaucoup Megan.
Merci Camille, merci pour ton accueil.
Nous voilà à la toute fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a appris des choses en plus sur la sexualité. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez me les partager sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe. Si vous avez apprécié, le meilleur, c'est de le partager autour de vous, soit de manière publique, soit en privé, via votre entourage, les amis, la famille, etc. Et si vous voulez donner un peu de baume au cœur, vous savez quoi faire, des étoiles, des avis sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Merci.